France Musique.
Bonjour, bonjour et bienvenue à tous, c'est Guitare Guitare. Je suis heureux d'être avec vous pour notre rendez-vous du samedi où nous nous plongeons ensemble dans l'univers de la guitare et des cordes pincées. On met le cap sur le Brésil aujourd'hui en compagnie de Gaëlle Solal que nous recevons car elle vient de faire paraître son dernier disque intitulé Tout Où. C'est un enregistrement délicieux qui dessine en quelque sorte un portrait musical du Brésil d'Heitor Villa-Lobos. On y trouve donc pas mal de pièces de ce célèbre compositeur, mais aussi des musiques qui l'ont inspiré ou qu'il a lui-même inspiré à d'autres. Gaëlle Solal est une artiste sincère, intègre, engagée, une artiste qui doute, qui se remet en question et qui avance avec une authenticité musicale très touchante. Nous parlerons de tout cela avec elle dans la deuxième partie de cette émission et d'ici là, on se met un petit peu dans le bain. toute la joie et la pétillance de Louise Bonnefoy dans cette mélodie Quebra Amar chantée par sa guitare orchestrale et tellement dansante. Et juste avant, c'était Tout Où, le quatrième mouvement de l'hommage à Villa-Lobos écrit par Roland Dien, c'est joué ici par Gaël Solal. Un extrait de son dernier disque paru sur le label espagnol Eudora. C'est la pièce qui ouvre le disque, c'est également celle qui lui a inspiré son titre, et elle résume à elle seule l'état d'esprit des musiques enregistrées sur ce CD. Des musiques qui veulent tout, et surtout ne pas choisir, entre la flamme populaire et le raffinement de l'écriture. Thank you. le grand Yamandou Costa qui joue le choro comme il respire, hein, capable d'époustoufler n'importe quel instrumentiste et de faire chanter des théâtres entiers rien qu'avec sa guitare. Et juste avant, Gaël Solal faisait vibrer le Scottish choro d'Heitor Villa-Lobos, le deuxième mouvement de la suite populaire brésilienne, une suite qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs, puisqu'elle a été rassemblée à la demande de l'éditeur Max Eschig. Et il est donc tout à fait possible et pertinent d'en jouer des mouvements isolés, des mouvements qui terminent d'ailleurs tous par des choros.
Thank you.
Le Choro numéro 1, la pièce la plus emblématique du catalogue guitaristique de Villa-Lobos, jouée par notre invité du jour. Bonjour Gaël Solal.
Bonjour Sébastien.
Alors lorsqu'on aborde le répertoire de Villa-Lobos, et particulièrement cette pièce, il y a toujours cette question, ce point de frottement, doit-on pousser la musique du côté populaire, se l'approprier, mettre en valeur les rythmes caractéristiques, ornementer, improviser, ou doit-on au contraire rentrer dans le texte et se concentrer à respecter le mieux possible la forme et les notes? Vous êtes-vous posé cette question ou est-ce que vous avez fait le choix de ne pas choisir?
Ah, c'est une très belle question, je me la suis évidemment posée. Je me la suis posée parce que j'ai entendu aussi Villa-Lobos jouer dans les fameuses rodas de Choro, donc c'est on va dire des agroupements de musiciens brésiliens qui prennent toutes sortes de musiques et qui passent à leur moulinette, on va dire. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait vraiment se libérer de cette partition qui parfois, dans nos cursus, quand on a ce cursus conservatoire, académique, etc., on finit par se dire, voilà, c'est écrit dans le marbre, alors que pas du tout, on découvre que cette musique est très vivante. Je me suis posée aussi cette question parce qu'on sait que dans la formation de Villa-Lobos, qui est aussi en grande partie autodidacte. Il exécrait tout ce qui était académique, et donc il était vraiment pour cette liberté folle. Et donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de naviguer en eau trouble entre un respect des structures, des partitions, et à l'intérieur, m'autoriser certaines libertés de, des fois, faire ce fameux point d'orgue dans le choro, ne pas le faire la deuxième fois, des petites choses, de rajouter des petites notes en plus, etc. Donc j'ai vraiment, j'ai navigué dans tout ça.
Dans ce disque, il n'y a pas que du Villa-Lobos, on y écoute aussi Jobim, Nazareth, Diens, Gismonti, c'est une vraie peinture musicale du Brésil. Quel est votre rapport à ce pays et à sa culture, et qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de vous y intéresser à ce point?
Alors en fait, tout vient de il y a longtemps, en fait, de 2009. Il y a eu le festival Villa-Lobos à Radio France. Et à l'époque, donc, j'y suis allée, je suis tombée donc, sur un concert de Yamandou Costa que je ne connaissais pas à l'époque. Et puis j'ai été subjuguée. De là, je suis devenue amie avec lui, je suis devenue amie avec sa femme, Elodie. Et puis j'ai rencontré après tous les autres musiciens qui jouaient les jours d'après, donc des immenses musiciens, Marcelo Gonçalves, le quintet de Villa-Lobos. Et donc je me suis laissée porter pendant plus de 2, 3, 4 jours de Villa-Lobos avec des musiciens brésiliens à Paris. Et là, je me suis dit, en fait, il se passe quelque chose, je vibre d'une façon différente. Et puis, sur un coup de tête, en fait, je suis partie au Brésil 10 jours après. Donc, je me suis fait inviter par ses amis musiciens, et je suis partie, j'ai pris un billet, je suis partie. Et je me suis retrouvée complètement embarquée dans leur vie pendant 10 jours, c'est-à-dire qu'on partait, on arrivait à 19h, on allait au Roda de Choro, chez les uns, chez les autres. On jouait jusqu'à 7h du matin. Donc, moi, à l'époque, je ne jouais pas du tout de musique brésilienne, donc j'écoutais. Et puis de temps en temps dans la soirée, j'étais le jukebox classique, et donc on me disait « Gaël, est-ce que tu peux nous jouer le concerto de Tedesco? Est-ce que tu peux nous jouer une suite de Bach ?» Et donc ça m'a fait un bien fou, et puis dans l'avion de retour, je me suis dit « Alors il y a deux possibilités, soit tout mon cursus m'amène quelque part et c'est la bonne voie, soit est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit virage et d'aller voir du côté de l'improvisation, du côté de retrouver ce plaisir que j'avais quand même perdu pendant mes nombreuses années d'études, un peu austère, il faut le dire. » Et j'ai pris le choix, on va dire, de la zone justement de danger, pas de confort, et de dire non, en fait, je vais tenter par là. Et donc là, depuis 2009, où j'ai commencé à prendre des cours d'improvisation, à écouter plein d'enregistrements, à me former pour vraiment essayer de retrouver ce plaisir qui avait disparu.
Depuis 2009, ça a été une longue genèse, alors, la conception de ce disque.
Alors oui, parce qu'entre-temps, il y a eu un autre projet de disque, qui était un disque de musique baroque sur Chaconne et Passacaille, et j'ai commencé là à me dire, en fait, voilà, l'idée, ce serait de faire mes propres arrangements, et aussi de m'en sentir capable, donc voilà, de les mûrir, voilà, ça prend du temps, de les travailler, de les torturer, de les triturer, et voilà, de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Et après, je suis rentrée dans une zone un peu particulière, un peu de on va dire de blocage, de désert, où jusqu'à maintenant, j'avais fait que des autoproductions, et donc j'avais plus envie de ça, j'avais envie de trouver un label, j'avais envie de pouvoir vraiment m'exprimer, que mon disque soit visible, de pouvoir faire une vraie sortie de presse, avoir des vraies critiques, et en fait, je ne trouvais pas de label, donc j'ai vécu ce désert pendant des années régulièrement, me dire, et d'avoir des noms ou des non-réponses, ce qui est à peu près la même chose. Et puis, à force de rentrer dans ce cercle-là, c'était un peu un cercle vicieux, en fait, j'ai eu un petit blocage de rentrer en studio, d'enregistrer, etc. Et puis récemment, donc l'année passée, j'ai réussi à débloquer ça en écrivant justement sur les réseaux sociaux à une compagnie de disques que j'admire beaucoup, une petite compagnie, un petit label espagnol, qui m'a répondu tout de suite. Et puis on a enregistré, premier message en juillet et enregistrement en septembre, dans une magnifique église du XIIIe siècle à Avila, et sur 3 jours, et c'était fait.
Gaël Solal, vous vous occupez d'une association, Guitare Elle, qui travaille à mettre en valeur la présence des femmes dans le monde de la guitare. On en est où sur ce terrain-là? Est-ce que les choses s'améliorent? J'ai l'impression qu'elles ne peuvent que s'améliorer, non?
Je suis d'accord avec vous. Vu d'où on part, tout ne peut que s'améliorer. Donc moi, le constat de base, c'est... l'angle, je me suis dit, en fait, il va falloir attaquer de façon très, très structurée. J'ai créé la page Women of the Classical Guitar. On pourra mettre le lien aussi. Donc, c'est une liste qui recense toutes les femmes, professionnelles qui jouent de la guitare dans le monde. Donc, avec leur nom, le pays et leur site. Mais c'est au moins pour montrer qu'on est beaucoup. Et puis, je me suis rendu compte qu'il fallait se structurer, il fallait chercher des fonds, il fallait créer. Donc, les 3 axes, c'est d'abord un axe de statistiques. Donc, de sortir des statistiques en regardant le pourcentage des femmes programmées ou pas sur plein de saisons de par le monde. Au niveau des études, en France et aussi dans d'autres pays, on va essayer de regarder aussi à quel moment les femmes s'arrêtent. Pourquoi dans les classes de guitare on voit aussi des jeunes filles et pourquoi elles s'arrêtent? Où vont-elles? Pourquoi s'arrêtent-elles? Pourquoi elles ne deviennent pas professionnelles et pourquoi elles n'ont pas de visibilité? Ensuite, il y aurait un deuxième volet qui là est déjà presque en train de se mettre en place, c'est un volet de mentorat. Donc il y aura tout un programme de mentoring où des femmes... c'est pas du tout une question d'âge, mais vraiment des femmes plus avancées dans leur carrière vont soutenir des plus jeunes et même des moins jeunes. Et donc, avoir ces discussions une fois par mois, donc de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, comment tu le vis. Donc, d'avoir vraiment cette espèce de suivi et ce soutien dont on a absolument besoin. Et la troisième partie, ce sera vraiment un système de bourse aussi pour des projets, pour encourager les femmes à vraiment se professionnaliser dans ce milieu. Et la dernière partie, quand on aura fait tout ça, ce sera vraiment créer un argumentaire et créer carrément un label, une charte qu'on peut signer, que les festivals peuvent signer en s'engageant pour 2025 à la représentativité. Car on ne demande pas encore la parité, vu qu'on est moins statistiquement, on demande la représentativité.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gaël Solal, c'était un plaisir de vous avoir à nos micros. On vous retrouve en live tout à l'heure dans Génération France Musique et on va conclure cette émission avec votre interprétation pleine de Saudade de Chora Corazao d'Antonio Carlos Jobim. Thank you. Gaël Solal et Tom Jobim pour finir en douceur cette émission que j'ai préparée aujourd'hui avec Félix Levaché et Jean-René Bonissant. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur l'appli Radio France et réécouter cette émission, la podcaster, consulter les programmes et nous écrire. Ça nous fait plaisir.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Il est 13h sur France Musique, l'heure de retrouver Thierry Jousse.
À réécouter sur francemusique.fr.